Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, pour un numéro un peu spécial puisqu'il va être consacré à la programmation d'un seul événement. Comme je l'ai indiqué lors des émissions précédentes, les mois de mai et juin ouvrent la saison des festivals, saison qui va culminer durant l'été. La région Occitanie est très prolifique dans ce domaine avec de nombreuses, de belles manifestations. Et du 7 au 11 juin, dans la magnifique ville d'Albi, ont lieu les 16e rencontres internationales de musique de chambre, plus connues sous le nom de Festival Ton Voisin. Chaque année, la programmation est regroupée autour d'un thème qui sert de fil rouge à tous les concerts. Cette 16e édition ne déroge pas à la règle en étant dédiée à un seul et unique compositeur dont le nom barre en lettres d'or l'affiche rouge du festival, les quatre lettres qui forment le nom de Jean-Sébastien Bach, génie absolu, qu'on peut voir à juste titre comme la figure centrale de la musique savante européenne. Pourquoi avoir consacré l'édition 2022 de Ton Voisin à Bach et sa musique? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants avec notre invité, le pianiste Denis Pascal, albigeois fier de l'être, fondateur et directeur artistique du festival Ton Voisin.
Mélomanie, l'agenda.
Bonjour Denis Pascal et merci d'avoir trouvé du temps pour les auditeurs de Mélomanie dans votre agenda que je sais toujours très chargé parce qu'en dehors de votre fonction de directeur artistique de Ton Voisin, vous menez votre carrière de musicien et vous êtes un des professeurs de la classe de piano du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Jean-Sébastien Bach. À ma connaissance, il n'y a pas d'anniversaire particulier à célébrer ou à commémorer en 2022 concernant celui qu'on appelait aussi le cantor de Leipzig. Alors pourquoi ce choix de lui consacrer tout le festival cette année, même si bien sûr l'importance et la variété de son œuvre le justifient amplement?
Bonjour Eric. En fait, on a fait quelques anniversaires, évidemment, l'année Beethoven 2020, mais en général, disons que le cheminement du festival lui-même appelle à rendre hommage à certains compositeurs. D'abord Chopin, puis ensuite Mozart, puis ensuite Beethoven, et nous voilà avec Bach. Et Bach, pourquoi? Ben parce qu'il faut, en fait, je pense que c'est une évidence, il faut aller vers Bach. D'abord parce que aussi le festival s'appelle Ton Voisin, et que 2022, c'est le 250e anniversaire de la parution du premier volume du Clavecin bien tempéré. Et le Clavecin bien tempéré, c'est un recueil didactique, un recueil pour apprendre aux musiciens de l'époque comment voyager dans une tonalité, Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, avec des tons voisins. Donc finalement, le festival intitulé Ton Voisin prend sa source, en tout cas la dénomination, dans ces œuvres-là, dans ce moment de l'histoire de la musique où un compositeur finalement a définitivement inspiré et installé la manière de passer d'une tonalité à l'autre.
Ah, il y a autre chose concernant Bach, c'est que tout le monde connaît son nom, tout le monde pense connaître sa musique, mais en fait, la connaît-on si bien que ça? Je pense entre autres à sa musique de chambre.
Non, parce qu'en fait, ce qu'on connaît de Bach, évidemment, enfin, en tout cas, ce qu'on a peut-être entendu ou imaginé, c'est les passions, la passion sur le Saint-Jean, la passion sur Saint-Mathieu, la grande messe aussi, et évidemment, les cantates. Il y en a énormément. Alors, la musique instrumentale, on connaît effectivement peut-être bien le double concerto pour violon, et encore, et les musiques pour piano, notamment les variations Goldberg, ou les suites françaises, ou les partitas. Mais ça reste plutôt une musique que les musiciens connaissent. Voilà. C'est pas une musique difficile, c'est simplement une musique qui est peu jouée finalement. Voilà, la musique instrumentale. Donc pas la musique de chambre forcément, mais la musique instrumentale. La musique de chambre chez Bach, ça veut dire une pièce à 3, 4 ou 5 voix. La notion un petit peu de musique d'ensemble est différente, en tout cas dans la musique instrumentale.
Et puis il y a peut-être autre chose. On dit que la musique a évidemment des vertus consolatoires, mais peut-être que celle de Bach est celle entre toutes qui a le plus cette vertu de consolation, et par les temps troublés et pour le moins troublés que nous vivons, avec un avenir qui s'annonce plutôt sombre, très inquiétant, eh bien on a besoin d'écouter aussi la musique de Bach plus que jamais.
Oui, c'est une évidence en fait. C'est peut-être aussi le choix cette année aussi de la programmation à l'intérieur de ce festival Bach, la programmation d'œuvres ou d'airs ou de moments de son œuvre qui sont particulièrement émouvant et qui sont évidemment consolateurs, enfin qui consolent l'homme de sa condition. C'est un propos religieux, spirituel, évidemment, la musique de Bach. Donc forcément, il y a cette dimension-là. Il y a à la fois une dimension intellectuelle, mais aussi très incarnée, du fait que souvent, la rhétorique de cette musique illustre la souffrance, parfois dans les passions, la souffrance du Christ, évidemment, mais aussi la souffrance de l'homme dans sa condition. Bref, on parle de la condition humaine, mais à travers un prisme religieux. La musique ne promeut pas spécialement la religion, elle est juste une décoration et une clé de prière, on va dire, avec Bach, de recueillement, on va dire plutôt ça. Voilà.
Je pense que le terme est très juste, recueillement. La programmation de ce festival 2022 dédié à Bach, eh bien, nous allons la regarder dans le détail, mais de manière générale, quelle couleur, quel esprit avez-vous voulu lui donner ? Est-ce qu'il s'agit aussi de montrer aussi toute la musique de Bach dans sa variété et la diversité de ses inspirations ?
Oui, alors j'ai voulu lui donner les couleurs suivantes, vous avez bien deviné, le rouge et le jaune, ça veut dire des couleurs festives, c'est-à-dire que la musique de Bach, il y a une jubilation, il y a une joie aussi dans la structuration de son écriture et dans la plénitude de son écriture, dans la magie de ses combinaisons de voix, de contrepoints, et il y a une grande puissance à la fois rythmique et dansante qui est très prégnante et qui aide beaucoup aussi. Donc il y a cette dimension-là, il y a la dimension aussi, comme on l'a dit, de la prière, du recueillement, mais surtout la dimension du foisonnement, un petit peu, c'est une écriture extrêmement riche, c'est-à-dire une multitude de voix qui se rejoignent, c'est comme une espèce de kaléidoscope, voilà, il y a plusieurs directions qui se croisent, exactement comme ce que j'ai voulu en tout cas traduire la signature Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire que ces trois lettres qui s'entrecroisent et qui forment ce blason qui est sur l'affiche, qui peut paraître un peu particulier, mais qui est en fait l'entroisement de ses initiales écrites en miroir, ça c'est Bach. Voilà, donc il y a cette joie dans cette conception de croiser les voix et de faire naître une musique de toutes ces voix-là. Donc ça, c'est un peu l'idée, la jubilation en tout cas, la joie, ça c'est sûr.
On parlait de spiritualité, et vous parliez de ce côté kaléidoscopique de la musique de Bach. Est-ce qu'elle n'a pas aussi quelque chose de miraculeux, cette musique ? Il y a un mystère quand même autour de cette musique.
Comme souvent d'ailleurs chez les compositeurs de cet ordre, comme soit Mozart ou Bach, qui sont les deux grandes lumières, on va dire, de l'histoire de la musique, il y a un miracle, oui, effectivement. Ce miracle, il est palpable constamment, d'ailleurs, quand on écoute certains mouvements de passion ou des cantates, justement. Et ce miracle est toujours renouvelé. Ça veut dire que le miracle, c'est l'émotion qui est donnée par cette musique-là. Et comment ce compositeur, qui est un artisan, génial, arrive à déclencher chez l'auditeur, c'est justement une émotion. C'est une émotion d'un genre particulier qui consiste à se sentir lié par un destin commun. Je ne sais pas comment dire, enfin, c'est quelque chose de particulier. C'est-à-dire que la cantate Ishab, par exemple, l'introduction, à chaque réécoute, c'est la même émotion que pour les non-musiciens et aussi pour les musiciens. Les musiciens qui le jouent, les musiciens qui l'écoutent, les musiciens qui connaissent l'histoire de la musique, se retrouvent pris par la même émotion, le mouvement interne. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est une musique, finalement, qui ne vieillit pas.
Mais il y a quelque chose, à la fois de divin, bien sûr, dans cette musique, mais aussi de profondément humain. Et pour moi, c'est ça le miracle.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'humain, il est dans la vie, il est dans tout ce que ça comporte, évidemment, la douleur, la joie. Mais on peut dire ça plus particulièrement de Schubert. Vous dites là, il est dans là. Voilà. Parce que c'est Schubert qui n'est pas spécialement croyant, etc. Il y a eu une spiritualité aussi dans certaines pièces, mais il y a quelque chose de très humain, de très intime et de très, très prenant. C'est pour ça aussi que cette musique prend, le temps passant, de plus en plus d'importance pour le public. Et Bach, il y a quelque chose de différent. Il parle évidemment, il illustre bien des pages de l'Évangile. Donc c'est directement lié au texte sacré. Il utilise beaucoup de pirouettes, on va dire, d'écriture, au sens où beaucoup de ses œuvres sont calculées, autour de certains nombres, autour de certains versets de la Bible. Mais il n'empêche que, avec tout ça, la musique est là, avec une force vitale et primitive incroyable. Voilà, oui, c'est ça le miracle. Un génie, c'est un miracle, de toute façon, d'une certaine manière.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai, cette 16e édition consacrée à Bach aurait pu s'appeler Le Miracle Bach. Alors, la programmation, on y vient. Elle commence le 7 juin par un concert hors les murs, comme il faut dire maintenant, à l'église Sainte-Catherine de Puy-Gouzon. Et je crois que c'est un peu une tradition maintenant de proposer un concert dans ce très joli village du Tarn.
Oui, en fait, c'est un moment privilégié, en particulier le public aussi aime beaucoup cet endroit, Je trouve que c'est un des rares concerts dans un lieu sacré, dans une église. Il y a toujours une ambiance particulière, une intimité, et l'acoustique est très belle. Et c'est vrai qu'on a pris, pour 4 ans, cette habitude. Et c'est un rendez-vous, finalement, qui donne du sens à la suite du festival. En général, je présente dans ce concert un petit peu ce qui va être la suite du festival, c'est-à-dire l'étonnement un peu les aboutissants, le début et la fin un petit peu de l'histoire qui va avoir lieu pendant cette semaine-là. Et là, on l'a consacré à la musique baroque, au sens où on va confronter Bach à l'Italie, Scarlatti, Vivaldi et Handel, qui sont, on va dire, les grandes figures un petit peu baroques à ce moment-là.
C'est contemporain, ce sont vraiment ces contemporains.
Contemporains de Bach, voilà, et c'est vrai que Bach connaît cette musique, Bach n'a pas voyagé, Bach s'est beaucoup inspiré ou a servi, ou connaissait parfaitement le style italien. Donc un concert entier sera dédié à ce voyage virtuel en Italie.
On va en parler dans quelques minutes.
Mais voilà, et sinon, c'est une église, il y a un espace résonnant, il y a un espace particulier aussi, et donc on va, avec Isabelle faire une partie à quatre mains autour des chorales de Bach transcrites par Giorgi Courtagne, compositeur du XXe siècle, et puis quelques-uns de Scarlatti, quelques airs d'opéra de Vivaldi et de Handel, et des extraits de cantates, la Passion selon Saint Matthieu. Voilà. Donc c'est ce mélange-là un petit peu que, pour moi, c'est les plus belles pages qu'on va donner ce jour-là. Donc ça, c'est parfait. Voilà.
Voilà, un concert que vous avez intitulé tout naturellement Barocco, où l'on trouve tous les grands de la fin de la période baroque, les contemporains de Jean-Sébastien Bach, donc Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel. Les musiciens, alors il y aura Alexandre Pascal, votre fils, au violon, avec Simon Milone. Votre épouse, Marie-Paul Milone, va chanter, parce que gens qui ont bien écouté, il y a un certain nombre de chorales, de cantates, il y a le magnifique Erba Medisch de la Passion selon Saint Matthieu, et puis donc Michael Drey au violoncelle, et vous-même, et Isabelle Pourcat au piano. Je n'ai oublié personne.
Non.
Voilà, magnifique distribution, et on va écouter un premier extrait dans cette émission pour illustrer le programme de ce concert. Une des plus pures merveilles composées par Jean-Sébastien Bach, il y en a beaucoup, mais c'est Erbarmendisch, extrait de sa colossale et insurpassable Passion selon Saint Matthieu. On ne s'en lasse pas. Thank you. Herba Medich, alors si c'est pas une musique miraculeuse, ça, air célèbre entre tous de la passion selon Saint Matthieu, chanté ici par le contre-ténor Damien Guillon, accompagné par le Collegium Vocal de Gand, dirigé par son fondateur Philippe Hervègue. Le concert suivant, qui va être le vrai concert d'ouverture, Denis Pascal, le 8 juin à 18h au Théâtre des Lys, eh bien vous l'avez consacré aux variations Goldberg. Alors, il faut que vous nous disiez un mot sur la genèse de cette œuvre, parce que il va y avoir évidemment un pianiste, le jeune pianiste russe Pavel Kolesnikov, qui vit à Londres, mais il y a une récitante, Marie-Christine Barrault, votre amie, je crois qu'on peut le dire parce que vous avez fait
beaucoup
de choses avec elle sur scène et notamment au festival Ton Voisin. Et si elle est là, il y a une bonne raison parce qu'elle va nous raconter un peu la petite histoire de cette œuvre.
Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que Tristan Labouré va nous raconter l'histoire de cette œuvre, la genèse qui est particulière. Bon, c'est un sommet de l'écriture pour clavier. Il a été aussi donné, on dit que ça a été donné pour donner le sommeil à un grand mécène, mais ce qui est paradoxal. Mais disons qu'en fait, Pavel, qui joue dans le monde entier cette pièce, et à cœur à faire des projets avec, c'est-à-dire ne pas la jouer simplement seule, mais la jouer accompagnée, soit avec la danse, avec Teresa de Kersmacher, on fait tour du monde avec ça, soit avec une projection un petit peu sur des textes, et sur des textes pas indépendants, qui sont en relation avec le style un peu galant de cette pièce, très, très ornée et très virtuose. Et là, ce seront une série de sonnets de Shakespeare qui seront lus par Marie-Christine Barrault. Donc, si vous voulez, il y a deux entrées un petit peu. Il y aura le fait, si vous voulez, que cette œuvre est colossale, elle dure un peu plus d'une heure, c'est 33 variations très développées. Moi, j'ai pensé que ces lectures-là allaient donner une espèce de respiration un petit peu à l'écoute et nous permettre d'être à la hauteur un petit peu de ce que Bach a écrit, parce que la musique de Bach, elle se reçoit pas d'un coup tout de suite. Enfin, si, des fois on est stupéfait par la beauté de cette musique, mais dans cette œuvre-là, l'aria que tout le monde connaît, qui est sublime, apparaît au tout début, et puis après une série de variations très savantes, et on a besoin de tout notre être, on va dire, et notre conscience pour le recevoir. Donc je pensais que ces respirations-là étaient importantes. Mais par ailleurs, la genèse et l'histoire, la grande histoire, la petite histoire de cette pièce, font l'objet d'une introduction qui sera donnée par Tristan Labouré.
Alors Tristan Labouret, lui aussi, c'est un peu l'invité fil rouge. Bach, c'est le fil rouge du point de vue musical. Mais Tristan Labouret va présenter beaucoup de concerts, presque tous.
Presque tous, effectivement. Et c'est un parti pris, si vous voulez. C'est-à-dire de faire une préparation brillante, sommaire, courte, un petit peu avant le concert, de manière à ce que des repères ou des clés d'écoute soient donnés au public. C'est quand même la vocation première du festival.
Ce qu'on n'a pas dit, mais que Tristan Labouret va expliquer dans son introduction, c'est qui est ce fameux Goldberg. Alors, ce n'est pas le conte pour lequel Bach avait écrit ses variations et qui était censé soi-disant l'endormir, enfin, en tout cas qu'il réécoutait pour trouver le sommeil, mais c'est le nom du premier interprète, celui qui les jouait.
Le jeune Stéphane Goldberg, absolument. Donc après, d'intituler des œuvres, ça permet de, bon, historiquement de les repérer. Cette œuvre a été évidemment jouée par les grands clavecinistes Wanda Landowska, au XXe siècle, évidemment. Et puis, évidemment, Glenn Gould en a fait un petit peu un travail énorme, un cheval de bataille, à travers 4 enregistrements, je crois, et le tout premier enregistrement en studio, puisqu'il avait beaucoup travaillé sur le son en général. C'est le premier interprète vraiment qui travaillait lui-même sur la production de son enregistrement.
Deux versions célèbres par Glenn Gould, celle de 1955 et celle de 1981, quelques mois avant sa mort, d'ailleurs fort différente de la première. Voici un petit extrait des variations Goldberg, interprété par Pavel Kolesnikov. Thank you. un extrait des variations Goldberg sous les doigts de Pavel Kolesnikov qui va donc les jouer le 8 juin à 18h au Théâtre des Lys, alors que Marie-Christine Barrault va officier en tant que récitante le même 8 juin à 21h toujours au Théâtre des Lys. Cette fois-ci, après les variations Goldberg, un autre monument, les concertos brandebourgeois, donc le 8 juin. Pourquoi avez-vous choisi le 5e? Ce sera le 5e qui sera donné.
Alors, ça c'est un choix de Bertrand Cuiller, parce que ce qui m'intéressait, c'est de recevoir Bertrand, que j'admire beaucoup comme claveciniste, et son ensemble caravanserail. Donc, le 5e, parce que peut-être c'est le plus célèbre, je pense, mais c'est un choix particulier, à la fois du double concerto en la mineur et de la suite en si, parce que ce sont des œuvres qu'il conduit depuis assez longtemps. Et c'est aussi, ça fait partie un petit peu des œuvres orchestrales qui ont été assez données, diffusées dans les années 50. En fait, juste après la guerre, il y a beaucoup de productions discographiques autour de ces œuvres, avec des styles plus ou moins idoines d'ailleurs, hein, c'était pas forcément bien fait. Et là, disons que la réalisation de Bertrand Cuiller du Caravanserail sera un petit peu dans ce festival, j'ai peine à dire, mais un peu l'unique intervention historique, on va dire, stylistique historique autour de Bach. Voilà, parce qu'il était tellement devoir de proposer sur instruments anciens, avec des musiciens rompus à l'art de Bach baroque, comme Bertrand Cuiller, Bruno Coxet évidemment, magnifique
violoncelliste,
gambiste, voilà. Et ce sont des amis, à savoir que Bruno Coxet et Bertrand Cuiller étaient là pour la toute première édition du festival. Ils avaient fait un magnifique récital, concert à la Maison des Compagnons à l'époque où nous jouions vraiment à la périphérie de la ville. Et ce sont des musiciens formidables, sympathiques et rompus à tout genre d'exercice. Et ils sont là pour diffuser leur amour de la musique et en tout cas ce qu'ils aiment dans cette musique. Donc d'une certaine manière aussi, des musiciens pleins de vie, joyeux, qui correspondent parfaitement à cette idée de la musique de Bach comme mettant plein de vie, de joie, de trépidation. Voilà, donc c'est un concert heureux sur instrument baroque et disons instrument historique. On appelle ça des musiciens historiquement informés, mais pour Bertrand, il n'y a pas de frontière en fait. Hein. C'est juste un investissement sur la phrase, sur l'immanence de cette musique et de vraiment, tout comme Pavel, vous avez entendu tout à l'heure, sa diction et sa ornementation est tout à fait vivante et sensible. Bah, c'est un peu le même projet pour Bertrand et le Caravanserail, mais sur des instruments qui ne sont pas des instruments modernes.
Voilà, un magnifique programme avec le 5e des concertos brandebourgeois et puis la suite en si mineur et le concerto pour traverso, violon et cassin en la mineur. Nous écoutons le premier mouvement Allegro du concerto brandebourgeois numéro 5. Le premier mouvement allegro du concerto brandebourgeois numéro 5 dans une version elle aussi très joyeuse de la Netherlands Bach Society. Vous évoquiez il y a quelques instants Vivaldi, le voyage en Italie. Donc le 9 juin à 14h30, on reste au Théâtre des Lys. Et donc là, c'est un hommage à Vivaldi qu'on moque un peu aujourd'hui, en tout cas que certains musiciens, compositeurs ont pu moquer, notamment parce que peut-être les quatre saisons sont devenues une sorte de musique d'ascenseur. Mais Bach, lui, admirait Vivaldi.
Oui, et en fait, d'une manière assez étonnante, les musicologues qui se sont penchés sur Bach à la fin du 19e et au début du 20e siècle ont redécouvert ce compositeur qui lui aussi a été un petit peu négligé, plus que Bach d'ailleurs au 19e siècle. Et finalement, ce concerto pour violon des quatre saisons est devenu un tube, effectivement un tube. Alors, musique d'ascenseur, ça reste quand même la fantastique musique, c'est une musique incroyable, mais c'est vrai que c'est devenu quelque chose, c'est un patrimoine évident pour beaucoup de gens. La musique classique, c'est d'abord les quatre saisons de Vivaldi. Et étonnamment, c'est une musique qui a été négligée pendant assez longtemps, pas vraiment reconnue aussi parce qu'elle était peut-être trop séduisante à une époque où la musique romantique cherchait plutôt quelque chose de plus abyssal, enfin de plus important, comment dire, moins décoratif, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que cette musique, encore une musique qui rajeunit et qui attire et qui capte l'auditoire de plus en plus. Donc c'est un incontournable pour nous, ça fait partie des œuvres qui n'ont jamais été programmées officielles d'Albi, c'est souvent des œuvres qui sont un peu passe-partout, dans des festivals, pas des festivals, mais disons des séries organisées vite fait comme ça dans les églises un peu partout en France, et tant mieux parce que c'est une musique magnifique, une musique qui est assez difficile aussi à réaliser pour le soliste, et qui, comme les concertos de Bach pour deux pianos, ou pour quatre pianos d'ailleurs, sont pour l'interprète un moment de joie, c'est un jouissif de jouer un concerto de Bach, de jouer un concerto de Vivaldi, et c'est quelque chose aussi d'extrêmement entraînant et d'extrêmement... Ça explique un petit peu que cette musique-là, donc cette musique classique, la musique baroque, la musique du 18e siècle, c'est une musique de la joie, pas de la peine, c'est une musique de la joie, de la vie.
Oui, donc il y aura les quatre saisons qui en fait sont quatre concertos pour violon, et puis il y aura le concerto pour deux violoncelles, Hervé 531. Ça, c'est pas ce qu'on joue le plus de Vivaldi.
Non, on joue pas non plus. Vous savez, les très beaux concertos pour basson, on les joue jamais.
Oui, il y en a, beaucoup aussi.
S'il faut très très beau, c'est un gros bois. Mais disons que c'est une pièce. Bon, c'est aussi un clin d'œil, hein, parce que Aurélien Pascal et sa maman Marie Pomulone seront les deux solistes. Bon, enfin, en filigrane, il y a aussi cette histoire d'une famille de musiciens. Voilà. Alors ça, je sais pas du tout. Hein. À mettre en avant, mais disons que effectivement il y a des musiciens dans la famille, on est une première génération de musiciens, et en fait aussi l'idée d'une tradition de famille de musiciens qui existe un peu moins maintenant, tradition de métier. Voilà.
En tout cas, c'était le cas de la famille Bach, puisque la tradition là, s'étend sur deux siècles et demi, je crois, avant Bach et après Bach.
Alors, il y a quelques corps de métier comme ça, chez certains artisans, bombeurs de verre, souffleurs de verre, qui ont tenu un petit peu sur 10 générations, peut-être, ce métier-là. Les musiciens, nous, bon, il se trouve qu'on est tous musiciens de la famille, et que c'était un moment aussi de retrouvailles, et c'est un concert qui est dédié aussi aux jeunes, puisque les scolaires sont invités à ce concert. Et donc voilà, c'est un ensemble.
Voilà, donc le 9 juin, ça sera en début d'après-midi à 14h30. Et puis le soir, toujours au Théâtre des Lys, alors on va changer complètement d'ambiance, Bach's Groove. Oui. Expliquez-nous un peu ça.
Alors, il s'agit d'un concert par un de nos fidèles artistes, le pianiste de jazz extraordinaire Paul Lai, qui a fait tout un programme autour de Bach, en hommage à une pièce de Thelonious Monk. En fait, c'est cette idée que, effectivement, une caractéristique de Bach, c'est de pouvoir tout supporter. Non, le jazz supporte pas le jazz, mais disons que sa musique est déclinable. En fait, son rythme et un petit peu l'inventivité, la pulsation qui est dans cette musique, on peut tout à fait imaginer qu'elle serve et qu'elle nourrisse en partie l'improvisation de jazzman. Ça va être le cas. Et on rebondit avec une introduction tout à fait, on va dire, entre guillemets, sérieuse autour de l'art de la fugue, c'est-à-dire des pièces à 4 voix, à 8 voix, à 3 voix et à 2 voix, pour essayer de faire comprendre un petit peu la plasticité de la composition, et surtout la différence et la frontière entre une musique absolument écrite et qui existe même abstraitement sur un papier, et puis la musique improvisée. Et donc l'objet, c'est ça, c'est-à-dire de rendre hommage à un sommet de l'écriture musicale, avec l'art de la fugue, ou l'introduction, un extrait de l'introduction de la Passion selon Saint-Jean, mais ça c'est un clin d'œil personnel, on en fait un arrangement, et pour évoquer l'apparition un petit peu, ou la dilution un petit peu de l'écriture à travers l'improvisation du jazz.
Ouais, ça c'est vraiment une soirée extraordinaire, un programme comme vous n'en verrez je pense nulle part ailleurs. J'ai un extrait de Bach's Groove à vous proposer, le prélude en sol mineur numéro 16 de Jean-Sébastien Bach, revu à la façon du Paul Lyle Trio. Le prélude en sol mineur numéro 16 de Jean-Sébastien Bach à la façon du Paul Lyle Trio, extrait de ce programme Bach's Groove. Ensuite, le 10 juin, le lendemain, à 15h, vous allez à la résidence Les Mimosas. Là, vous allez nous parler de Telemann et la sonate baroque. Alors, il faut qu'on rappelle que Telemann fut un compositeur extrêmement prolifique, mais que de son vivant, il fut une véritable star, ce que ne fut pas du tout Jean-Sébastien Bach.
Absolument. Voilà, les choses sont inverses, évidemment, mais disons que Telemann était la figure proéminente de l'art baroque, enfin, en tout cas en Allemagne, et il a produit énormément, notamment les musiques de table, ce qu'on appelle Tafelmusik, des choses qui sont formidables, qui sont moins jouées actuellement, et ce qui était intéressant un petit peu dans ce concert, c'est de parcourir justement des compositeurs qui se sont consacrés à la sonate. La sonate baroque, c'est souvent des sonates à trois, c'est-à-dire une basse, un continuo, et deux instruments, deux voix du haut. Et cette explication, ce voyage entre Handel, qui était beaucoup plus alors ouvert à l'opéra, un compositeur séduisant, un compositeur qui était très social, qui est un compositeur qui avait une grande activité, on va dire, dans la cité urbaine, etc., à Londres notamment, et le compositeur un peu plus discret et caché, et tout entièrement consacré à son art qui était Bach, et Telemann qui était la figure absolument, oui, la figure incontournable de l'époque en Allemagne. Et d'ailleurs, un grand témoignage de d'admiration de Bach vers Telemann.
Voilà, donc il y aura programme, il y aura Telemann, Bach et Handel. Là, on retrouve les trois grands de l'époque baroque. Handel, certes, a été naturalisé anglais, mais enfin, il est bien allemand aussi. Oui, les trois. Et Handel, lui aussi, fait une véritable vedette à son époque. Hein.
Mais évidemment, c'est un compositeur d'opéra aussi. Alors Handel, évidemment, dès qu'un compositeur compose des opéras, alors il devient un compositeur social, voire politique, et il représente le pouvoir, puisque l'opéra, la maison d'opéra est aussi une manière d'asseoir le pouvoir en place culturellement, ce qui part de traditions européennes.
Alors, au programme, il y aura la sonate en trio TWV 42 C2 de Georg Philipp Telemann. Voici un extrait de cette œuvre, le premier mouvement, l'Argo. Thank you. Le premier mouvement, l'argot de la sonate en trio TWV42C2 de Georg Philipp Telemann. La suite, eh bien c'est des suites. Toujours le 10 juin à 18h au Théâtre des Lys. Alors ça, très important dans l'œuvre de Bach. Des suites de danse, il faut comprendre, suites de danse.
Suite de danse, c'est la suite du festival, évidemment, c'est les suites de danse et les formes un petit peu qui ont été utilisées par d'autres compositeurs. Quand on y vient, le festival va aussi saluer, non pas les héritiers, mais enfin, en tout cas les musiciens les plus importants qui ont tourné leur regard vers Bach et qui ont utilisé un peu les mêmes formes. Alors, c'est vrai que il y a quelque chose d'important dans ce concert, c'est la première sonate de Brahms pour violoncelle et piano, qui utilise à peu près, à la note près, on va dire effectivement, un des grands sujets de l'art de la fugue. Donc ça, c'était très important de mettre en relation un petit peu cette œuvre-là et l'art de la fugue. D'autres musiciens comme Ravel avec les suites de danse sur les suites on va dire plus françaises avec préludes, fugues, suites de danse dans le tombeau de Couperin par exemple qui est un hommage à la musique du 18e siècle et puis quelques chorales de Bach-Busoni, enfin bref, c'est cette espèce de voyage un petit peu entre le 19e, le 20e et le 18e siècle.
Voilà, Handel, Ravel, Bach, Brahms. Il y aura la sonate pour violoncelle et piano de Johannes Brahms. Et puis, toujours le 10 juin, la journée va se clôturer, non pas au Théâtre des Lys cette fois-ci, mais dans la cour du Palais de la Berbie. Alors, le Palais de la Berbie, aujourd'hui, c'est la cour par laquelle on passe pour entrer au musée Toulouse-Lautrec. Les gens qui connaissent vont bien repérer. C'est un lieu vraiment magnifique. Tous les ans, il y a au moins un concert dans cette cour. Et là, vous l'avez dédié à l'Amérique.
Oui, alors... Ce lieu, il est particulier. D'abord, c'est un endroit emblématique pour la ville d'Albi. Une acoustique merveilleuse parce que les murs sont très hauts et c'est une cour qui a vécu aussi l'ancien festival de Jean-Pierre Vallès, qui est magnifique, le festival de théâtre également. C'est une cour qui avait été envisagée aussi pour organiser notre grand festival de théâtre qui s'est donné à Avignon, il y a évidemment de nombreuses années. Bref, c'est un endroit un petit peu incontournable de la ville d'Albi. Il n'a pas été possible de faire des concerts pour les deux dernières éditions, d'une part avec la pandémie, mais aussi parce qu'il y a une série de travaux qui empêchaient un petit peu l'installation et d'une scène et d'une jauge conséquente. Donc voilà, alors c'est un retour un petit peu à des fondamentaux albigeois, on va dire, et c'est pour ça aussi que j'ai donné à ce programme une tonalité particulière. Comme je disais tout à l'heure, on va mélanger non pas l'Amérique et l'Allemagne, mais simplement on va faire un voyage. Évidemment, tout le monde connaît Villa-Lobos et ses séries de Bacchanas brasileiras, d'œuvres inspirées par Bach, clairement, et dont les plus connues sont la numéro 5 et la numéro 4, ça c'est sûr. Et puis aussi une œuvre particulière de John Adams que j'aime beaucoup, qui s'appelle Check the Loops, et qui met en place un ensemble de cordes. Qui semble inspiré de loin de la musique italienne du XVIIIe siècle, une musique répétitive, et qui permet aussi, je le pense sérieusement, de provoquer un état dans le public susceptible de recevoir plus intensément la musique. C'est-à-dire une espèce d'étourdissement pas de torpeur, mais d'hypnotisation un petit peu de l'oreille qui fait que les œuvres qui vont être enchaînées juste après, c'est-à-dire des extraits de la cantate 21, et d'une autre cantate, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, vont permettre un petit peu de faire un pont, une espèce de grand écart entre cette musique de la fin du XXe siècle et la musique du début du XVIIIe siècle.
Et puis il y aura le concerto pour hautbois et violon.
Voilà, alors j'ai le plaisir d'inviter à ce concert deux musiciens extraordinaires d'origine albigeoise qui sont Alexandre Gatté au bois, qui est certainement un des plus grands oboïstes français, qui vient d'ailleurs d'être nommé récemment au CNSM de Lyon, et magnifique oboïste albigeois, et une autre magnifique artiste qui est Gabrielle Philipponnet, qui est une soprano albigeoise, qui fait une très belle carrière sur les scènes lyriques et qui a accepté de venir chanter dans sa ville natale. C'est le Bacchanas numéro 5 et cet extrait de la cantate 21. Alors les textes de la cantate et en général le programme d'une manière plus précise et souterraine est consacré à la faute humaine. Donc, vous voyez, la musique va décrire des choses tout à fait exceptionnelles, mais le texte, en particulier pour l'époque que nous traversons actuellement, va parler de beaucoup de choses importantes. Voilà, je vous donnerai une traduction aussi de ces textes. qui seront données en début de concert.
Alors voilà, il y aura l'orchestre du festival avec de très jeunes, excellents musiciens et des musiciens plus chevronnés. Ouais. Vous en avez cité quelques-uns. Magnifique orchestre. Le concerto pour hautbois et violon BWV 1060 est magnifique. Il est très connu. On écoute son premier mouvement, Allegro. Le premier mouvement Allegro de ce sublime concerto pour hautbois et violon BWV 1060 de Jean-Sébastien Bach, donc une des œuvres que vous pourrez écouter dans la cour du palais de la Berbie. Et donc la petite chronique d'Anna Magdalena Bach va prendre la suite le lendemain, le 11 juin, et ce sera 11h, donc là ce sera en matinée. Au Théâtre des Lys, vous revenez au Théâtre des Lys. Alors, il faut rappeler un peu qui est Anna Magdalena Bach. Il a été marié deux fois, Jean-Sébastien Bach. C'est sa seconde épouse qui était musicienne elle-même et qui a reconnu tout de suite, elle, le génie de celui qui allait devenir son homme.
Voilà. Alors, c'est des extraits un petit peu d'un livre qui a été publié dans les années 50 et qui retrace d'une manière vivement romancée la vie d'Anna Magdalena, absolument émerveillée par l'amour de cet homme génial et sa relation avec la foi, avec la composition, etc. Donc cette chronique qui va nous faire entrer dans l'intimité un petit peu de la vie de Bach, avec sa relation avec Archimède Bach, avec ses enfants, certains de ses enfants en tout cas. Ça sera vraiment véritablement une série de lectures faites par Maxime Barraud, qui seront illustrées par quelques œuvres pianistiques ou en duo avec Marie-Paul et moi, parce que c'est important d'avoir une musicienne sur le plateau. Oui, pour parler d'Anna Magdalena Bach, voilà, ça c'est très important. Mais c'est vrai que ce sera un dialogue, et là, ce sera vraiment une incursion véritablement littéraire, un petit peu dans la vie de Bach. Se rapprocher un peu de cette intimité, voilà, parce qu'il y a beaucoup à dire. On sait très peu de choses sur Bach, donc il a fallu chercher, on se fait une idée de certaines choses sur Bach, mais on sait très peu de choses parce que ce n'était pas un homme sur lequel on a beaucoup écrit de son vivant. Il est mystérieux, il gardera son mystère pour toujours.
Et c'est peut-être pas plus mal finalement. Donc il y aura la musique de Jean-Sébastien Bach, mais aussi de deux de ses fils, Carl-Philippe Emmanuel, qui aujourd'hui est de plus en plus reconnu comme le génie qu'il était lui aussi, et puis Johann Christian, celui qu'on appelle aussi Jean Chrétien, qui était le Bach de Londres, lui, si je ne me trompe.
Voilà, c'est ça. Alors, qui d'ailleurs, qui a rencontré Mozart, qui était un ami. Mais Mozart, ça c'est merveilleux, parce qu'on avait joué déjà au Festival Mozart du Jean Chrétien Bach. Et voilà, donc ça c'est... Et puis c'est vrai que Carl-Philippe Emmanuel Bach, c'est un compositeur précieux. Il faisait partie un petit peu du mouvement décadent de la fin du XVIIIe siècle. Et il a souvent été en conflit avec son père, mais merveilleux penseur de la musique et aussi de l'interprétation. Il a laissé beaucoup d'œuvres et d'œuvres didactiques pour l'interprétation des œuvres en général. Baroque du XVIIIe siècle.
On reste au Théâtre des Lys à 17h ce même 11 juin pour la dernière journée du festival. Alors, vous avez intitulé ce concert de 17h « Beyond Bach ». Pour quelle raison ?
Après Bach, au-delà de Bach. Alors, au-delà de Bach, on a dans la chaîne un petit peu de transmission. On a évidemment Brahms, dont on a déjà parlé, que je vais relier à une pièce de l'offrande musicale. Et puis, un peu plus loin encore, qui est relié à Brahms, qui est relié à Bach, qui est un par exemple, domino, c'est Schoenberg, Arnold Schoenberg. Voilà. Et ça, c'est cette pièce-là, c'est-à-dire c'est la symphonie de chambre opus 9 dans la version quintette avec piano. On va dire que c'est déjà l'annonce de ce qui va être fait l'année prochaine. Il y a toujours, pas un rappel, mais un appel à la prochaine édition, dans une édition du festival.
Un indice, voilà. En tout cas, un indice.
Voilà, voilà, c'est très important. Et de la même manière, si vous voulez, on intercale les Ritschirkar, des offrandes musicales, avec l'œuvre de Schoenberg, ainsi qu'un canon à quatre, de l'offrande musicale également, avant le quatuor opus 60 de Brahms, pour souligner encore un peu plus la connexion, enfin la science de l'écriture chez Schoenberg, chez Brahms et chez Bach. Voilà.
Et on aura le plaisir d'entendre au piano un de vos anciens élèves, Nathanaël Gouin, qui fait une magnifique carrière aujourd'hui.
Bien sûr, voilà, Nathanaël sera là pour jouer le Schoenberg. Moi-même, je ferai le Brahms opus 60 pour accompagner Alexandre et Aurélien, et un magnifique artiste, altiste qui s'appelle Paul Zientara, qui est une grande star montante de l'alto en France.
Oui, voilà. Un très beau programme avec, une fois de plus, des musiciens excellents. Et le dernier concert, le concert de clôture, le 11 juin à 20h30, là, vous allez ça sera le seul concert au Grand Théâtre, donc la scène nationale d'Albi. Bach chez Mendelssohn, regard du 19e siècle. Alors, il faut expliquer à quel point Mendelssohn a été important dans la redécouverte de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach au 19e siècle.
Alors, la musique de Bach, du temps de Bach, d'ailleurs, déjà à la fin du 18e, a été décriée comme étant une musique trop savante, dont la rhétorique ne concernait plus la vie contemporaine à la fin du 18e siècle. Donc, son œuvre a été moins jouée. Les compositeurs connaissaient les grandes œuvres didactiques pour clavier, mais finalement, l'œuvre Les Passions et les œuvres Roxane n'étaient plus jouées. Mendelssohn, qui était un esprit éclairé, magnifique, d'une éducation parfaite, un enfant prodige lui-même, au niveau de la composition, s'est plongé un petit peu dans les manuscrits, est un des premiers un petit peu à remettre au goût du jour, en arrangeant lui-même d'ailleurs souvent des pièces et des versions de la Passion selon saint Matthieu par Mendelssohn. Il a remis au goût du jour l'exécution de cette musique, d'abord dans les salons et puis après dans les grandes salles de concert. Donc il est un des premiers grands noms en Europe à défendre cette musique et la remettre petit à petit dans les programmations des salles de concert. Voilà, et donc il y a ce regard un petit peu qu'au 19e siècle, les compositeurs ont fait de Bach un espèce de monument un peu minéral d'ailleurs, qui n'était pas tellement dans la musique jouée, mais plutôt dans la musique construite et écrite, et c'était un mode d'inspiration, on va dire presque technique pour eux. Et ils l'ont à la fois élevé en statut, ce compositeur, mais peut-être un peu tué quelque part, puisque il n'accordait pas tout de même le sens d'une musique qui était en relation un petit peu avec les préoccupations contemporaines du 10e siècle. Voilà. Alors, après, ça a changé, évidemment, mais c'est vrai que Mendelssohn en a été tout premier. Alors, on rend hommage à ce compositeur, et on va donner un absolu chef-d'œuvre de Mendelssohn qu'il a composé, je crois, il y avait 16 ou 17 ans, l'Octuor à cordes.
C'est ça, oui, 16 ou 17 ans, effectivement.
Une merveille. Voilà. Alors, d'autres choses aussi.
Il y aura deux sonates de Bach.
Deux sonates de Bach qui vont être jouées par Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme. Alors, Renaud, c'est la deuxième fois qu'il vient au festival. Renaud a une attitude particulière, c'est celle de créer autour de lui, de fédérer en tout cas des groupes de musiciens jeunes de cette génération qui vont l'entourer d'ailleurs là. Et à l'idée, un peu à l'instar, de penser que des festivals de musique, de chambre, ce serait un petit peu de loin, un petit peu comme des maisons d'opéra qui accueilleraient des troupes et qui feraient travailler le répertoire si tu as toute une génération, qui fait que finalement, bon voilà, la tradition de la musique de chambre et la formation de la musique de chambre est pérenne pour les jeunes artistes de demain. Voilà. Et donc, il y a une action extraordinaire sur le monde musical, mais ce qui est intéressant, il vient au festival, partager avec les résidents du festival, qui connaît tous d'ailleurs, cette œuvre, et ce sera un bon moment, j'imagine, de communion et aussi de parrainage, entre guillemets, pour ces jeunes musiciens. Voilà.
Et oui, et il était naturel de rendre hommage à Félix Mendelssohn, parce que nous lui devons beaucoup dans la redécouverte de Bach. Donc, cette 16e édition dédiée à celui qu'on appelait aussi le 5e évangéliste devait donner au cours de sa programmation au moins une grande œuvre de Félix Mendelssohn. Eh bien, on va écouter le célèbre Scherzo de l'Octuor à cordes opus 20 de Félix Mendelssohn. Thank you. C'était le scherzo de l'octuor à cordes opus 20 de Félix Mendelssohn Bartholdy avec lequel nous concluons cette émission. Voilà donc pour la foisonnante programmation de la 16e édition du festival Ton Voisin, dédié à la gloire de Jean-Sébastien Bach et de son œuvre, à suivre à Albi et un peu aussi dans les environs de la capitale tarnaise du 7 au 11 juin. Tout le détail des concerts que nous vous avons annoncés, les réservations et la billetterie, ainsi que les renseignements pratiques sont disponibles en vous connectant au site web du festival www.ton-voisin.com. Merci infiniment Denis Pascal de nous avoir présenté cette belle programmation. On va vous souhaiter un beau festival à vous et à toute l'équipe qui l'organise. Je signale avant de terminer cette émission le concert que donne l'Orchestre National du Capitole avec Jean-François Zigel, samedi 4 juin à 18h à la Halle aux Grains, à Toulouse bien sûr. Un concert intitulé « Mon Ravel à moi ». Réservation et achat des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.